monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du mardi 7 août 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. L'opposition malienne qui demande la démission du ministre en charge des élections tient en ce moment un meeting à Bamako. Nous ferons le point avec Kassim Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila réunit les cadres de la coalition au pouvoir à la veille de la date butoir du dépôt des candidatures à la présidentielle. Au Cameroun, la commission électorale publie la liste des 9 candidats retenus pour la course à la présidentielle du 7 octobre. Entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran, la Russie se dit déçue. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous et on démarre par la République démocratique du Congo. C'est demain la date limite du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 23 décembre. On ne connaît toujours pas le candidat de la majorité, mais le président Kabila a réuni les cadres de la coalition au pouvoir. Et de son côté, l'opposant Félix Tshisekedi a déposé aujourd'hui son dossier. Le point avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La surprise de la journée aura été le dépôt de la candidature de Tryphon Kinkiemoulumba, ancien ministre de Joseph Kabila et haut cadre de la majorité présidentielle qui en 2016 créait le regroupement Kabila-Désir, rappelant que la RDC avait encore besoin de Joseph Kabila et qu'il devait poursuivre son œuvre à la tête du pays. Contre la volonté de sa famille politique, il a finalement décidé de se porter candidat à la magistrature suprême. Comme Kinkiemoulumba, Freddy Matungulu, économiste, professeur d'université et ancien fonctionnaire au Fonds monétaire international, a également déposé sa candidature au nom de la plateforme électorale dénommée Synergie électorale Notre Congo. Mais le plus attendu de la journée, c'était Félix Tshisekedi. Le président de l'UDPS Tshisekedi est arrivé en fin d'après-midi au siège de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer son dossier de candidature, accompagné des nombreux militants de son parti. Pendant ce temps, autour de Joseph Kabila se poursuit dans sa ferme des discussions sur le candidat du Front commun pour le Congo. L'opinion devrait être fixée dans les prochaines heures sur le choix du camp présidentiel pour succéder à Joseph Kabila. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
On reste dans le chapitre des élections. Au Cameroun, 9 candidats, dont le président sortant Paul Biya, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre selon une liste publiée par la commission électorale ELECAM. Outre Paul Biya, les principaux opposants retenus sont Joshua Ossi du Social Democratic Front, le SDF, principal parti d'opposition, et Garga Haman Hadji de l'Alliance pour la démocratie et le développement, ADD, arrivé troisième lors de la dernière présidentielle de 2011. Nous y reviendrons en Parti Magazine. Au Mali, l'opposition organise en ce moment à Bamako un grand meeting. Elle demande le départ du ministre de l'administration du territoire chargé de l'organisation des élections. Ses opposants accusent le pouvoir d'avoir organisé des fraudes en faveur du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui sera opposé à Soumaïla Cissé au second tour. Et on retrouve en direct de Bamako Kassim Traoré. Kassim, bonsoir, quelle est la situation?
Bonsoir, le meeting tant attendu a commencé. Malgré la pluie, les partisans, sympathisants des candidats sont venus et ils ont rempli les 30 000 places de la salle Bazoumana Sissoko. Le ton a été donné par Soumaïla Cissé qui a dégagé les grandes lignes de ce meeting qui sera consacré sur la dénonciation de la fraude massive, les décomptes des voix, bureau de vote par bureau de vote, mais surtout la réquisition des 9 sièges de la Cour constitutionnelle qui doivent rendre demain public les résultats définitifs du scrutin. En tout cas, au niveau du palais de la culture, sur la vingtaine des candidats annoncés, 16 ont répondu présents et les autres se sont fait représenter. Ici, c'est la parole maintenant aux différents représentants des candidats avant que ceux présents ne prennent la parole pour décliner. Et le tout sera conclu par une déclaration du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, une déclaration tant attendue ici, car déterminera la suite de la contestation au niveau de ces 20 partis politiques.
Voilà. Merci beaucoup, Kassim Traoré, en direct de Bamako. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, devrait être libérée de prison demain, mercredi, selon son avocat, après l'annonce de son amnistie par le président Alassane Ouattara. Selon maître Rodrigue Dadié, elle a été ravie d'apprendre la nouvelle de sa libération. Sa priorité actuelle est de retrouver sa famille et ses proches et de passer avec eux des moments d'intimité et de retrouvailles. Simone Gbagbo est âgée de 69 ans. Elle a été amnistiée en même temps que 800 autres personnes. Le PDCI RDA, qui est en coalition avec le parti de Alassane Ouattara, salue la libération des prisonniers politiques. C'est une déclaration de l'ancien chef, l'ancien président Henri Konan Bédié. Et nous y reviendrons également en partie magazine. Au Nigeria, la tension à l'Assemblée nationale a pris une autre dimension ce matin alors que les sénateurs du parti au pouvoir APC menacent de destituer le président du Sénat qui a fait défection la semaine dernière pour l'opposition. Les forces de sécurité sont intervenues au Parlement, bloquant l'entrée aux parlementaires. Les détails avec Gilbert Tamba, le correspondant de VO Afrique à Abuja.
Tout a commencé le 31 juillet dernier quand le président du Sénat, Bukola Saraki, a claqué la porte du parti au pouvoir APC du président Muhammadu Buhari. Il n'est pas parti seul puisque plusieurs dizaines d'autres sénateurs et députés ainsi que certains gouverneurs comme ceux de Sokoto et de Benue ont suivi le président du Sénat nigérian. Depuis, la tension est palpable au Parlement et Bukola Saraki est aujourd'hui menacé de destitution par les sénateurs pro-Buhari. Hier, dans un communiqué, Saraki a convoqué une réunion qui devait se tenir ce mardi dans les locaux du Parlement fédéral. Mais ce matin, à la surprise générale, les forces de sécurité ont bloqué l'entrée du Parlement nigérian, empêchant ainsi les législateurs et autres personnes d'entrer dans l'enceinte pendant quelques heures. Des hommes armés portant l'uniforme noir du département de la sécurité de l'État se trouvaient devant le bâtiment où ils ont été rejoints plus tard par des policiers. Les législateurs qui étaient venus avec l'espoir d'assister à la réunion se sont vus refuser l'entrée à l'Assemblée par les agents de sécurité. Question: qui a ordonné la présence policière du Parlement? En l'absence du président Buhari en congé à Londres, le président par intérim Yemi Osinbajo a limogé le directeur des services de renseignement, Lawal Moussa Daoura. Ce dernier indique pourtant qu'il n'a fait que suivre un ordre de la haute hiérarchie de l'État. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
Toujours au Nigeria, 7 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le nord-est du pays. Les insurgés sont arrivés hier soir à bord de pick-up et à moto dans le village de Mundiri, dans l'état du Borno, où ils ont massacré 7 civils qui tentaient de fuir, selon un chef de milice locale, Omar Ari. Un résident de la localité a lui indiqué que les djihadistes armés de fusils d'assaut et de lance-roquettes ont ouvert le feu indistinctement dans cette localité, située à une dizaine de kilomètres seulement de la capitale du Borno, Maiduguri. La justice zimbabwéenne a remis en liberté provisoire 27 opposants arrêtés à la suite des violences post-électorales après l'annonce de la victoire du président Mnangagwa. Malgré ce signe d'apaisement, les chefs de mission au Zimbabwe de l'Union européenne, des États-Unis, de la Suisse et du Canada ont, dans une déclaration commune, fait part de leur grave inquiétude quant à l'éruption de violences et de sérieuses violations des droits de l'homme. 6 personnes ont été tuées dans ces violences. Plusieurs centaines de personnes, personnalités du monde médiatique, proches ou anonymes, ont rendu hommage à Moscou aux 3 journalistes russes tués en Centrafrique il y a une semaine. C'était au cours d'une cérémonie religieuse dans une église orthodoxe. Ces journalistes enquêtaient sur les activités en Centrafrique de la société militaire Wagner, mais les autorités russes ont affirmé privilégier la thèse de vol.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le secrétaire d'État Mike Pompeo a promis que Washington fera respecter ses nouvelles sanctions contre l'Iran après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Hassan Rouhani a crié à la guerre psychologique et écarté toute nouvelle négociation réclamée par les États-Unis. Les Européens, signataires de l'accord de 2015, se disent déterminés à sauver le texte. Le groupe Daimler, constructeur automobile allemand, a annoncé avoir cessé ses activités en Iran. L'Union européenne a pourtant activé sa législation interdisant aux entreprises européennes de se conformer aux sanctions américaines. La Russie dit être déçue, assurant qu'elle fera tout pour sauver l'accord sur le nucléaire. Ankara a exprimé sa solidarité avec Téhéran et a qualifié ces sanctions d'illégales. Cette vague de sanctions comprend des blocages sur les transactions financières et les importations de matières premières, le secteur automobile et l'aviation, forçant Airbus et Boeing à résilier leurs contrats. Le président Donald Trump a lancé un avertissement aux pays qui persisteraient à vouloir faire du commerce avec l'Iran. En novembre, une seconde phase de sanctions va toucher le secteur pétrolier et gazier, ainsi que la Banque centrale iranienne.
La Turquie va envoyer dans les jours qui viennent une délégation aux États-Unis pour tenter de désamorcer la crise diplomatique qui a mis à rude épreuve la monnaie turque. Le chef de la diplomatie turque avait eu un entretien téléphonique avec son homologue américain Mike Pompeo. La semaine dernière, Washington a pris des sanctions contre deux ministres turcs et Ankara a réagi avec des mesures similaires. Je rappelle que les États-Unis exigent la libération d'un pasteur américain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manelakiza qui nous présente la Minute Éco.
Les pays membres de la CEMAC ont définitivement liquidé la compagnie aérienne Air CEMAC. Les fonds de liquidation de 7,569 milliards de francs CFA vont être affectés au fonds de développement communautaire de la BAC. Lancé en 2001, la compagnie avait pour vocation de desservir les capitales des 6 pays membres et une vingtaine de villes africaines avant d'envisager le développement des lignes européennes. Le Maroc a accepté pour la première fois d'importer de la viande de volaille produite aux États-Unis. Rabat interdisait jusqu'à présent les importations de cette catégorie d'aliments. Le marché marocain devrait représenter environ 10 millions de dollars par an dans un premier temps. Washington et Rabat ont travaillé ensemble pour apporter des garanties sur la sécurité alimentaire des produits concernés. Le constructeur automobile allemand Daimler cesse jusqu'à nouvel ordre ses activités en Iran. Le numéro 1 mondial de la voiture haut de gamme et des camions prévoyait notamment la fabrication et la vente de camions Mercedes via un partenariat avec des entreprises locales. Mais les sanctions économiques américaines rétablissent au mardi interdisent les transactions financières, les importations de matières premières et pénalisent les achats dans le secteur automobile et l'aviation commerciale. Quiconque fait des affaires avec l'Iran ne fera pas d'affaires avec les États-Unis, a averti le président Donald Trump.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Coup de balai dans l'arbitrage africain.
Oui, la Confédération africaine de football a suspendu 7 arbitres et un instructeur technique ghanéen après des faits de corruption relayés par la presse. Les 8 professionnels ghanéens ont été suspendus pour une période de 10 ans, à l'exception de David Larrier, un arbitre assistant exclu à vie. Dans son communiqué, la CAF a également annoncé la suspension provisoire jusqu'à l'examen de leur cas par le jury disciplinaire de 14 autres arbitres originaires du Ghana, mais aussi du Congo et du Sénégal.
Saïdo Berayo pourra jouer avec le Burundi lors des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
Oui, annoncé hier de la FIFA, le joueur de Stoke City né à Bujumbura, mais international anglais dans toutes les catégories de jeunes, a reçu l'aval de la Fédération internationale de football pour porter le maillot de son pays natal en compétition officielle.
La rubrique transfert à présent.
Simon Moses s'est engagé avec Levante pour les 5 prochaines saisons. Le club espagnol continue de se renforcer après la signature de Sancit Pjanic la semaine dernière. L'attaquant international nigérian qui avait manqué la Coupe du Monde à cause d'une blessure à la cuisse arrive en provenance de la Gantoise où il évoluait depuis 2015 avec un titre de champion de Belgique décroché en 2016.
Un autre nigérian à la tête de la sélection tanzanienne.
La Tanzanie qui mise sur une ancienne gloire du football africain pour espérer se qualifier à la CAN 2019. Emmanuel Amunike, le Nigérian, sera le coach de l'équipe nationale tanzanienne pour les 2 prochaines années. Sa dernière expérience de coach a eu lieu au Soudan où il dirigeait à Khartoum.
Tour cycliste du Rwanda.
Ce mardi, la troisième étape de 195 km entre Houye et Musanze, c'est le Belge Julian Hellman qui s'est imposé avec 8 secondes d'avance sur l'Espagnol David Lozano et le Sud-Africain Calvin Beneke. Au général, le Rwandais Samuel Mugisha reste en jaune. À suivre demain la quatrième étape entre Musanze et Karonji.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe maintenant au dossier du jour. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier soir une large amnistie pour 800 personnes, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo. Dans son discours, la veille de la fête nationale, Alassane Ouattara a beaucoup insisté en vue des élections de 2020 sur le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. Pour une analyse, Idriss Fall a joint à Abidjan Ngoz Fernand Julien. Il est le président du réseau des associations de la société civile ivoirienne.
En tant que père de la nation, le chef de l'État montre le souci de voir la relève politique se faire. L'insistance que le président de la République met à faire un appel du pied à la nouvelle génération. Il est désireux de partir sans doute en 2020, mais à condition bien sûr que ce soit au profit d'une nouvelle génération et non d'une génération de même d'acabit que lui.
Vous faites allusion à Henri Konan Bédié.
Ça peut être cela. La rumeur prête au président Bédié l'intention de briguer la présidence en 2020. On peut aussi se mettre dans l'hypothèse où la Cour pénale internationale libérerait le président Gbagbo et qu'il se retrouverait dans la posture de celui qui peut être un nouveau candidat, étant donné que toutes ces barrières de limitation d'âge ont été levées dans la constitution de la Troisième République. C'est un appel du pied à tous ces adversaires politiques, dont certains ont été de proches alliés, pour dire, moi je veux bien partir, mais je souhaite que nous cédions la place, nous tous ensemble, pas moi seul.
Jeune génération, c'est qui? C'est Ahmed Bakayoko? C'est Guillaume Soro? C'est Kakabé? C'est qui?
Je pense que le président veut d'abord déblayer le terrain. Il a sans doute son idée derrière la tête, mais j'estime que cette approche-là est trop teintée de paternalisme. Elle est trop dirigiste. Il faut au contraire, entre maintenant et 2020, ouvrir les vannes des débats démocratiques à l'intérieur des différents partis politiques. Que ceux qui se taisent parce qu'ils ont peur puissent parler. Alors là, on verrait de nouveaux jeunes qui vont alors monter au créneau, s'exprimer et faire valoir leurs différences d'opinion, leurs différences de perception et de vision. La démocratie à l'intérieur des partis politiques et la compétition démocratique entre les partis politiques grâce à une télévision nationale, une radio nationale, et à Fraternité Matin, que la presse écrite d'État, libéralisée, libérée de l'emprise des politiques. C'est cette approche-là qui pourrait favoriser l'avènement de gens, qui soient de l'ancienne ou de la nouvelle génération, qu'importe, qui auront frappé l'imagination des Ivoiriens et qui auront attiré leur attention. Plutôt que cette approche où quelqu'un, quelle que soit son intelligence, sa maestria, sa sagesse, va toujours pointer du doigt celui qui lui paraît le mieux indiqué pour assurer la relève. Mais on a vu dans tous les pays où cela s'est fait, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit au Togo, où les pères fondateurs ont légué le pouvoir à d'autres qu'ils ont désignés eux-mêmes, on a vu que les choses ne sont pas passées de la manière dont ces pères fondateurs avaient prévu.
C'était Ngoz Fernand Julien, président du réseau des associations de la société civile ivoirienne, joint à Abidjan.
Simone Gbagbo, amnistiée, c'est notre sujet ce soir dans À votre avis. Le président Alassane Ouattara a accordé l'amnistie à quelques 800 personnes poursuivies ou condamnées dans le cadre de la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'ex-première dame Simone Gbagbo doit donc sortir de prison dès demain, alors que son mari Laurent Gbagbo est toujours détenu par la CPI à La Haye. Même sort pour Soul to Soul, proche de Guillaume Soro, qui sera lui aussi remis en liberté. Que pensez-vous de ces amnisties? Est-ce assez pour réconcilier les Ivoiriens? Morgane Viriek, en votre compagnie, réagissait en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 2633. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons.
Au Cameroun, 9 candidats sur 28, dont le président sortant Paul Biya, ont été retenus pour la présidentielle du 7 octobre. Les principaux opposants retenus sont Joshua Ossi du SDF et Garga Aman Hadji de l'Alliance pour la démocratie et le développement. Cabral Libi du Parti Univers a appelé à une candidature unique car le scrutin est à un seul tour. Akere Muna est en négociation avec d'autres opposants pour une coalition qui a peu de chances de voir le jour. Alors Nathalie Barge a joint le politologue Moussa Ndjoya pour une analyse.
Au vu de la liste des 28 candidats qui avaient initialement déposé leur dossier avant le retrait volontaire du candidat Isaac Feze, il n'y a pas de grande surprise parce que les 9 candidats qui ont été retenus sont ceux qui ont premièrement eu la capacité de verser les 30 millions de cautions, ce qui n'a pas été le cas de tous les candidats, notamment les candidats indépendants, mais également ceux qui remplissaient les conditions de l'article 121 du Code électoral camerounais, à savoir que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut que le parti qui vous investisse ait au moins un conseiller municipal ou un parlementaire, soit un député ou un sénateur élu. La deuxième chose, c'est qu'en dehors des grands routiers, Amoun Bandjoya et Garga Aman Hadji, ainsi que Paul Biya, le reste des 6 candidats sont essentiellement des novices cette fois-ci qui s'engagent à la course pour la présidentielle.
Par rapport au SDF, le fait que John Frundi ne soit plus dans la course finalement et que ce soit donc Joshua aussi qui prenne la relève, qu'auriez-vous à dire ?
Nous avons déjà eu des cas où il y a des passations de témoins à la tête des partis politiques, notamment avec le Madame de Kanyanissé. Mais c'est la première fois qu'un président d'un parti politique aussi important, première force de l'opposition, accepte de ne pas concourir pour laisser la place à un autre. Il remplit davantage la condition de jeunesse. Mais il se fait voler la vedette par des candidats. En principe, on l'appareil de moins d'importance, tel que Maurice Kamto ou même Cabral Libi, qui au fort une plus fabrication médiatique dans une large mesure.
Par rapport à cette demande de coalition pour un candidat unique, est-ce que cette fois-ci, on pourrait avoir une chance avant le 7 octobre pour que cela se produise ou est-ce que c'est vraiment une utopie ?
Candidat unique, c'est une utopie. Est-ce qu'un certain nombre d'acteurs, 1, 2, 3 candidats coalisent pour faire face au président Paul Biya, cela est tout à fait possible. Mais compter avoir un candidat unique de l'opposition avant la date de la présidentielle est une utopie.
Et si le président sortant l'emportait, est-ce que, selon vous, cela permettrait de régler ou non la crise sécuritaire au Cameroun ?
Cela dépendra de 2 choses. La première chose, quel est le sens que la société donnera à sa victoire? Est-ce qu'on estimera que c'est une victoire méritée ou une victoire volée? Cela conditionnera la réponse de la société globalement. Deuxième chose, est-ce qu'il profitera de cette campagne électorale pour adresser un ensemble de préoccupations des populations anglophones? Donc, ici, les facteurs sont assez mouvants, mais dépendra également de ce que l'opposition prendra comme option. Est-ce qu'ils prendront d'une éventuelle victoire du président Biya ou bien est-ce qu'ils opteront pour la contestation de celle-ci?
C'était le professeur Moussa Ndjoya, joint à Yaoundé, au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les États-Unis ont rétabli les sanctions économiques contre l'Iran après le retrait en mai du président Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances. En plus d'affecter durement l'économie iranienne, ces sanctions compromettent les activités des multinationales européennes en Iran. Le président américain a d'ailleurs lancé un avertissement aux pays qui persisteraient à commercer avec l'Iran. Morgan Guerrier a joint Brian Newbert, il est un des porte-parole du département d'État américain.
L'objectif principal, c'est changer le comportement du régime iranien. L'accord sur le nucléaire iranien était insuffisante. Ça n'a pas pu protéger les intérêts, la sécurité du peuple américain. Mais à part question nucléaire, il y a financement et soutien pour les groupes terroristes dans la région. Le comportement déstabilisatrice du gouvernement iranien n'est pas acceptable. Ça pose menace dans la région et donc la stratégie, c'est isoler le régime iranien et enfin le presser d'utiliser leur ressources pour aider les peuples iraniens et pas pour déstabiliser la région.
Alors ces sanctions interviennent après que Washington sorte unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, un accord signé par d'autres pays qui ne voient pas ces sanctions d'un bon œil. Que leur répondez-vous ?
L'accord sur le nucléaire iranien n'était pas acceptable, ce n'était pas suffisant pour empêcher les efforts du régime iranien de développer des armes.
Mais les sanctions prises par Washington n'engagent pas que les États-Unis, car elles affectent les relations économiques qu'ont les Russes et les Européens avec l'Iran.
Il nous faut coordonner avec nos alliés, avec nos partenaires en Europe et ailleurs. C'est quelque chose que les États-Unis ont fait depuis le début. Mais l'essentiel, c'est que en réimposant ces sanctions afin d'isoler le régime iranien, ça veut dire que les sociétés et les pays risquent certaines conséquences s'ils continuent leurs activités économiques avec l'Iran.
C'est un des objectifs des sanctions.
Oui, absolument. Le comportement déstabilisatrice du gouvernement iranien n'est pas acceptable. Ça pose une menace dans la région.
C'était Brian Newbert du département d'État américain, joint à Johannesburg.
Les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Aujourd'hui marque le 20e anniversaire des attentats perpétrés contre des ambassades américaines en Afrique de l'Est. Ces attentats ont fait plus de 200 morts au Kenya et en Tanzanie. À Nairobi et à Dar es Salaam, les autorités américaines et locales ont participé aujourd'hui aux cérémonies commémoratives. C'est un récit de Lily Hartling.
Au matin du 7 août 1998, deux attentats quasi simultanés ont secoué les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, faisant 224 morts et près de 4000 blessés. À 10h30, les attaquants ont tenté de planter un camion rempli d'explosifs au garage du sous-sol de l'ambassade à Nairobi. L'explosion, qui a retenti dans le quartier des affaires, a gravement endommagé l'ambassade, ainsi que plusieurs bâtiments voisins. Paul Kaluku Lima, un commerçant, se rappelle de cette journée.
J'ai entendu la petite explosion qui venait d'une plus grande. C'est là où tout a éclaté. Certaines personnes ont été touchées par les éclats d'obus, la plupart par des débris, par des bâtiments. Il y avait des fragments de verre partout.
Quelques minutes après, un autre camion a explosé devant l'ambassade américaine à Dar es Salaam. Tristan Isa, un chauffeur de l'ambassade, y a été blessé.
Au début, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'ai entendu une explosion et j'ai été projeté en l'air. C'était comme un rêve. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital de Muhimbili.
Monica Kapilima aussi travaillait à l'ambassade.
Je me rappelle avoir vu un bâtiment en feu, des arbres tombés et entendu des alarmes de voitures. C'était le chaos. J'étais choquée quand j'ai appris que c'était une bombe. J'étais très confuse.
Quelques jours plus tard, les officiels du renseignement américain ont conclu que les agents d'Al-Qaïda avaient planifié et exécuté les deux attentats. Mwenda Mbijiwe était membre des forces aériennes du Kenya et un des premiers secouristes à l'ambassade.
C'était la première fois que le terrorisme tel que nous le connaissons aujourd'hui avait atteint notre région. Même si nous savions qu'il y avait du terrorisme dans le monde, ça n'avait pas atteint notre région. Donc nos forces de sécurité n'étaient pas préparées.
Sur le site de l'ancienne ambassade des États-Unis à Nairobi se trouve maintenant un parc commémoratif. À l'intérieur, un mur où sont inscrits les noms des victimes, pour que tous ceux qui visitent puissent apprendre ce qui s'est passé et se souvenir des vies perdues lors de cette journée meurtrière d'août 98.
Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Georges Léonard Sagnon qui l'a mise en onde. Présentation Abdourahman Dia. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique. Au revoir.
VOA Afrique.